Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
Frères et sœurs de Radio, chers amis de Radio Présence, nous sommes heureux de continuer à lire ensemble les livres de Samuel, et nous sommes au début du deuxième livre de Samuel, à la magnifique élégie d'une grande profondeur et d'une grande poésie de David à la mort de son ami Jonathan. Et nous avions déjà marqué combien cet amour qui était celui de David pour Jonathan, de Jonathan pour David, était d'un ordre particulier, et notamment dans le texte de latin de l'ancienne Vulgate, et il était écrit « Comme une mère aime son fils unique, ainsi je te chérissais », dit David à propos de Jonathan. Et ceci montre que, par une comparaison au-dessus de tout soupçon, la pureté de l'affection de David pour Jonathan. Et d'ailleurs, nous savons que Dieu lui-même prend à témoin l'affection maternelle qui est inconditionnelle, pour dire la fidélité absolue de la sienne. Une femme oublie-t-elle son petit enfant et est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes m'oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. Je t'ai inscrit sur les paumes de mes mains, etc. Et la tendresse paternelle de Dieu, tendresse maternelle et tendresse paternelle, est aussi l'image que prend le prophète Osée, et dans ce texte magnifique du chapitre 11e de ce prophète, « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et d'Égypte, j'appelais mon fils. Et je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leur joue. Je m'inclinais vers lui et je faisais manger. » Donc c'est vraiment la tendresse paternelle d'un père vis-à-vis de son petit enfant. Tout contre leur joue. Il existe donc, à côté de la tendresse maternelle et paternelle, une tendresse fraternelle, amicale, qui connaît des rapprochements forts. Et en effet, la tendresse humaine n'est jamais totalement immatérielle, car nous sommes notre corps, mais elle n'est pas forcément liée à la vie sexuelle en tant que telle. Et la tendresse, c'est peut-être l'un des plus beaux mots dont nous disposions pour exprimer la qualité humaine de l'amour pour autrui, dans le mariage, comme dans la famille et dans l'amitié. Et nous qui avons vécu pendant toutes ces semaines dernières, pendant 55 jours, un confinement et qui nous a laissés quelquefois seuls ou en famille, aussi parfois nous avons connu à la fois la plénitude ou le bienfait de cette tendresse quand nous l'avions à nos côtés, mais aussi le manque de cette tendresse quand nous étions laissés seuls ou à nous-mêmes. Mais lors de la lettre aux catholiques confirmée de notre diocèse que nous avons sur notre site internet tous les jours, depuis 2 mois maintenant, il y a un moment ou l'autre, on a passé la chanson de Bourvil et qui s'intitule « La tendresse ». La tendresse, et c'était bienvenu de l'entendre à nouveau, car en effet, une vie humaine, donc, à sa qualité, qui est celle de la qualité de l'amour, et un amour de qualité, c'est un amour qui est marqué par la tendresse, précisément. La tendresse, c'est quelque chose de doux, de délicat. On parle de tendreté d'une viande, et bien on la tendresse d'une personne. Une viande tendre, c'est une viande qui est souple, qui est agréable, qui se déguste. Mais au point de vue humain, la tendresse, c'est autre chose que la tendreté. Et Jean Guiton l'a bien écrit dans un éditorial il y a un bon nombre d'années maintenant. Et il est possible que nous découvrions bientôt une nouvelle manière d'aimer. Il faudra alors trouver un mot nouveau. Je propose tendresse. Que sera cette nouvelle tendresse dont il a existé tant de contrefaçons? Larmoyante, mièvre, ce que Valérie, Monterland et Mauriac ont dénoncé comme étant la douceur d'être faible. Et Joubert, de son côté, disait que la tendresse est le repos de la passion. Relisez, c'est encore Guiton qui écrit, relisez nos littératures. anciennes, classiques, romantiques, elles ne connaissent que les paroxysmes. Corneille, Racine ne sont pas tendres. Je dirais que Pascal est ardent, que Bossuet est dur, que Fénelon est sec, etc. L'Évangile n'est pas toujours tendre, sauf Saint-Luc, où je trouve parfois, ainsi dans l'anecdote de l'enfant prodigue, dans les disciples d'Emmaüs, ce que Shakespeare devait appeler le lait de la tendresse humaine. Et parmi les peintres, je ne vois que Rembrandt qui ait exprimé la tendresse, cette fleur de l'ombre. Et son pinceau a pris de la tendresse dans la pudeur et jusque dans la solitude. Et c'est voilà, des très belles lignes de Jean Guiton, dont nous savons la finesse et la délicatesse. Et il poursuit. Et pourtant, les œuvres ne sont vraiment belles que si on y sent ce je ne sais quoi qui fait pleurer, comme disait Hugo. Ce qui revient à dire qu'après avoir traversé tant de déserts et tant d'horreurs, nous allons peut-être rencontrer la tendresse. Même Valérie, si peu tentée par ce piège épouvantable de la tendresse, soi-disant, a redécouvert à la fin de sa vie Loust, la demoiselle de cristal. Mais qu'est-ce donc que la tendresse? C'est ce qui occupe l'intervalle immense, intraduisible, entre le tout et le rien, entre la passion et l'indifférence. Elle est quotidienne, familière, changeante, inventive, silencieuse. Elle a des attentions, ce qui vaut mieux encore que l'attention. La tendresse, c'est de pouvoir se taire ensemble, la main dans la main, sans aucune gêne. Ces mots d'amour, de charité qui y sont usés, remplacez-les par tendresse. Essayez de lire la Bible avec cette clé. Oui, chers amis, après ce confinement, et nous avons besoin de nous retrouver, nous avons besoin de tendresse, de manifester cette tendresse avec délicatesse. Nous allons y revenir.